Une semaine formidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Bonsoir à tous, bienvenue dans une semaine formidable pour décrypter l'actualité sportive de la semaine. Pour m'accompagner ce soir, Éric Figuère, Paul-Antoine Grandjean et Nicolas Ngaudrella. Bonsoir messieurs.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Au sommaire, l'Euro de handball, l'Open d'Australie de tennis et la reprise du PGA Tour avec Paul Barjon. On débattra également du Dakar et puis on se demandera si c'est toujours une épreuve prestigieuse. Enfin, on terminera avec les coups de cœur. Mais on commence avec le handball puisque l'équipe de France dispute actuellement l'Euro, ça se passe en Allemagne. Les Bleus qui font une entrée mitigée avec une large victoire contre la Macédoine du Nord jeudi matin, puis un match nul 26 partout contre la Suisse ce matin. Qu'est-ce que ça vous inspire, messieurs, cette équipe de France? On est à quelques mois des Jeux Olympiques, on est champion olympique en titre.
On a l'habitude que l'Euro ne soit pas la compétition phare pour les handballeurs. On l'a suffisamment répété, donc on s'attend, on s'attend à ce que les résultats ne soient pas forcément aussi bons que pour des JO. Maintenant, même si on a loué depuis tant d'années sur le travail de la fédération, des clubs, avec un niveau exceptionnel depuis si longtemps, depuis 30 ans quasiment, malheureusement, il y a quand même un moment donné où les générations peuvent être un petit peu moins bonnes. Alors j'aimerais dire ça, et puis j'aimerais qu'aux Jeux Olympiques de Paris, ils nous montrent que finalement la génération est toujours aussi bonne. Mais là, ça semble être un petit peu compliqué.
Même si c'est une compétition très relevée, l'Euro, c'est presque les meilleures équipes du monde, Paul-Antoine Grandjean.
Moi, je partage totalement la vie d'Éric. Hein. C'est vrai que je pense que d'un côté, ça peut être une bonne chose aussi, puis ça permet de rebondir avant les Jeux Olympiques. Ils ont quand même fait que match nul. Hein. C'est pas dramatique. Ils peuvent rebondir contre l'Allemagne. Alors c'est sûr que ça va être le pays hôte, mais ça peut les mettre en difficulté et travailler sur ça pour qu'aux Jeux Olympiques à Paris, ils arrivent à bien gérer la pression, parce que peut-être que c'est ce qui leur manque aujourd'hui avec cette jeune équipe, c'est peut-être la pression, et donc là, ça peut être une bonne préparation pour ça.
Nicolas Ngaudrella sur l'équipe de France de hand.
Oui, j'ai regardé ce matin le match. Il menait de 4 buts à la moitié de la deuxième mi-temps, et c'est un match qui semblait être à leur portée, mais c'est un peu comme les îles Féroé et la Norvège la veille. Il y a eu pareil la Serbie qui menait de 2 buts à la dernière minute et qui se sont fait rejoindre. Donc on n'est pas les seuls à être tombés dans le piège, donc c'est vraiment que le niveau se resserre et il faut faire très attention. Mais c'est vrai qu'il y a des actions normalement qui sont dans le but. Il y a le gardien qui récupère la balle, qui vise pas bien deux fois. On a une Guessant qui tire au-dessus. À la fin, t'as le fils Richardson qui envoie sur le poteau. Donc c'est plein de petits détails et en fait, je pense que voilà, je rejoins les autres, c'est une histoire de jeunesse, ils apprennent. Et je pense qu'intérieurement, je pense que leur objectif, sont les Jeux Olympiques. Donc, ils préparent, ils apprennent et ils seront présents pour les Jeux.
Après, c'est vrai que pour le haut niveau, que ce soit en hand ou dans d'autres disciplines, on est tellement habitué à voir les meilleurs briller, à voir des actions, à voir des buts, à voir etc. Mais on oublie que tous ces sportifs-là sont faillibles et que ils ont beau être aussi forts qu'ils veulent, on l'a vu en golf ce week-end, et à un moment donné, les choses peuvent dérailler. Voilà, donc dans le sport collectif, en général, il y en a toujours un pour rattraper l'autre, et puis de temps en temps, ça se brouille un peu, mais c'est pas grave.
Il y a notamment les cadres et puis Nicolas Karabatic qui est encore présent, ça peut aider malgré tout.
Moi je pense que ça peut que aider hein. Maintenant je pense qu'aussi à 8 mois des Jeux Olympiques, surtout à Paris, il faut vraiment voir si l'équipe de France et les cadres c'est plutôt un événement test un petit peu pour cette équipe,
préparation.
Une préparation ou vraiment un objectif final. Je pense que l'objectif final c'est Paris. Donc là, je pense qu'il faut se mettre à la place des cadres et de l'équipe de France et de se dire qu'est-ce qu'ils ont voulu mettre en place. Et puis encore une fois, hein, c'est comme l'a dit Niki, il y en a qui sont tombés dans le piège. On est qu'au début de la compétition. Il y aura un beau test contre l'Allemagne. Il faut voir la semaine prochaine.
La question, c'est est-ce que les cadres sont aussi forts qu'ils ne l'étaient par le passé? On parle de Nicolas Karabatic. Oui, mais aujourd'hui, il a presque 40 ans. Alors bien sûr qu'il reste une référence, bien sûr que pour cette équipe de France, il est nécessaire. Mais lorsque les cadres faisaient effectivement le travail dans les années précédentes, ils étaient plus forts que ça. Et les vieillissants, certes, étaient vieillissants, mais étaient quand même accompagnés de très très forts. Là, aujourd'hui, on a toujours évidemment une génération de très très haut niveau. Mais on verra si justement les cadres réussissent à tirer les plus jeunes derrière eux. On va voir ça assez vite parce que je pense que l'Allemagne sera un vrai premier test.
Sur Nicolas Ngodrella. Sur Nicolas Karabatic, Nicolas Ngodrella.
C'est le même niveau. Hein,
moi, c'est assez spécial parce que je joue au tennis avec le Luca, là, celui qui joue au pivot. Là, on joue ensemble au tennis. Donc on se connaît très bien et on passait notre temps avec. C'était à l'époque où Nicolas était encore beaucoup plus fort et Luca n'avait pas encore commencé sa carrière de pro. Et c'est vrai qu'ils étaient entourés de forts. Il y avait Daniel Narcisse, il y avait tout un tas, Luca Ballo, plein de grands joueurs. Et là, je pense qu'on a ces joueurs, mais ils apprennent, en fait. On a vu, ce sont des petits détails, et ils sont en apprentissage, mais intérieurement, ils se préparent pour les JO, mais voilà, maintenant, ils savent qu'ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils battent l'Allemagne, et finalement, on va voir s'ils peuvent être des cadres ou si on sera des éternels outsiders pour les JO.
En tout cas, il y aura ce match, vous en avez parlé, contre l'Allemagne, mercredi matin. Le pays hôte qui est favori à la victoire finale, il ne faudra pas une grosse défaite en tout cas pour ne pas être éliminé dès le premier tour. Et en cas de défaite, on peut quand même être qualifié pour le tour principal. Donc c'est plutôt la bonne nouvelle.
C'est la bonne nouvelle.
On suivra ça, le match mercredi matin contre l'Allemagne. On va enchaîner dans cette émission avec le tennis, puisque l'Open d'Australie a débuté hier à Melbourne. Beaucoup de Français à suivre. Nicolas Ngodrella, première question, lequel peut aller le plus loin ? Est-ce qu'on a déjà une idée sur le Français qui peut aller le plus loin dans cet Open d'Australie ? Qui est le plus en forme ?
Le plus en forme, bah, y a le match qui vient de se finir. Il y a Manarino là, qui venait de jouer contre Wawrinka. Il était malmené, il était mené 2-7 à 1, break au troisième. Et derrière, il s'en sort, il fait 5-7. C'est le mieux classé, mais là, il vient de perdre un peu d'énergie. Et on sait que son jeu, c'est pas quelqu'un qui fait le jeu, c'est plus un contreur. Mais sur cette surface, il joue assez bien. Donc je pense que Manarino peut s'en sortir. On a Arthur Cazot qui a gagné ici, qui peut faire un peu comme le Croate d'hier. Il peut créer la surprise, accrocher des bons joueurs. Les cartes sont rebattues. On a beaucoup moins de joueurs qui sont vraiment au-dessus. Il y a Dimitrov et Demi-Nord qui sont sortis un petit peu du lot par rapport au tournoi qu'il y a eu avant. Mais avec ce qu'ils nous ont montré hier, les premiers tours, c'est un peu comme l'équipe de France. Tout le monde peut se faire accrocher. Et le but des premiers tours en grand chelem, comme c'est en 3-7 gagnant, il ne faut pas perdre d'énergie. Bon, Djoko, il a joué en night session, donc il n'a pas trop subi la chaleur. Donc, ça a duré quand même 4 heures, mais on est optimiste pour lui. Mais il faut voir. Le but du jeu, c'est de ne pas perdre d'énergie sur les premiers tours.
Paul-Antoine Grandjean, sur cet Open d'Australie, il y a beaucoup de Français. On sait que parfois, dès le premier tour ou dès le deuxième tour, il n'y en a plus beaucoup. Là, comment vous voyez les choses ?
Moi, je ne suis pas très, très optimiste. Hein. J'aimerais bien l'être, mais c'est vrai je pense qu'aujourd'hui, on a des bons joueurs, mais est-ce qu'on a des super joueurs ? Là, c'est la question. Après, en effet, justement, comme ils sont challengers, hein, ils n'ont pas de pression, ils ont moins de pression que les très très bons, donc ils peuvent créer une surprise. Donc je pense que c'est à voir au fil du temps. Après, pareil, hein, les bons, on le voit, hein, c'est que Djoko qui perd un set, je pense que c'est quand même assez rarissime hein, sur un premier tour. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire quand on a un tel niveau je pense qu'il peut vite rebondir et voilà. Mais pour les Français, moi j'aimerais bien qu'il y en ait qui terminent dans le quart, hein, ce serait déjà super. Maintenant, il faut voir.
Eric, sur les Français.
Tu m'as devancé, Polo. Moi, je suis aussi un petit peu pessimiste. Alors, tant mieux si je me trompe, hein, parce qu'on a tous envie de voir les Français briller. Malheureusement, toutes ces dernières années ne nous poussent pas à être optimistes. Alors, on aura peut-être effectivement deux ou trois surprises. Un huitième, un quart, ce serait effectivement très, très, très intéressant. Ce serait de belles perfs. Après, est-ce qu'on serait si satisfait que ça d'avoir un huitième ou un quart le tennis français, c'est quand même si les résultats de cette décennie qui se termine, est-ce que ça nous pousse ? Il y a quand même un très très bon niveau en France, tout comme le golf d'ailleurs. Les tennismans et les golfeurs français ont de la qualité, ont beaucoup de qualité. Et pour l'instant, ça a du mal, que ce soit chez les garçons ou chez les filles. C'est pas faute d'avoir une formation qui est excellente, c'est pas faute d'avoir une DTN qui travaille très bien. Mais voilà, les résultats ne sont pas là. Donc, on a beau être optimiste, l'optimisme, ça ne fait pas tout. Hein.
Et il y a Lucas Vanaché également qui vient de se qualifier en 5-7. Un match marathon également contre Jem Duckworth, un Australien, je crois.
Oui, un local. Et ce soir, il y a Caroline Garcia qui joue contre Naomi Osaka. Et il y a Diane Paris qui a gagné, une fille qui a un joli revers à une main. Mais c'est vrai qu'il faut revoir nos objectifs à la baisse, mais c'est un renouvellement de génération. Il y a eu un moment donné où les Américains, il y avait Agassi, Sampras, il y a eu un trou générationnel. Et là, ils reviennent avec tout un tas d'Américains, Tiafoe, Fritz, Ben Shelton, tout ça.
Il y avait aussi moins de pays, peut-être aussi, moins de joueurs de différents pays.
Oui, mais c'est un renouvellement. Et là, je pense que les petits jeunes, ils poussent. Il y a Arthur Fils qui va jouer. Et c'est la fin de la génération Gasquet mon fils. Donc nous, déjà, ce qu'on veut pour eux, c'est qu'ils passent un ou deux tours. Bon, Gasquet, il joue Alcaraz, donc ça va être compliqué.
Demain, ouais.
Mais je pense que c'est un croisement de génération et je pense qu'on pourrait être un peu plus optimiste dans un ou deux ans. Mais c'est vrai qu'avoir un Français ou une Française en deuxième semaine, ça serait magnifique.
Bah, ce serait magnifique.
On si, en est arrivé
si,
là. Mais...
Si ça se répète. Ce serait magnifique si derrière les autres tournois du Grand Chelem, alors peut-être pas forcément celui-là, sur tous les tournois du Grand Chelem, les Français, même si c'est pas toujours les mêmes, réussissent à se placer un peu, à avoir des résultats un peu qui durent, là ça pourrait devenir très intéressant. Si c'est un one shot une fois de temps en temps, j'ai peur que ça ne serve ni à ces joueurs-là ou ces joueuses-là qui réussiront ces tournois un peu meilleurs que d'habitude, ni à l'ensemble des tennismen et des tennismen français.
Je suis d'accord, mais je pense que dans un ou deux ans, ça va être bon. Il y a le petit Arthur là, qui a gagné ici, avec Harold Maillot qui joue très très bien. Bon, Harold, il n'est pas sorti des qualifs, mais ça ne se joue à pas grand-chose. Il y a le petit qui a embêté Djokovic, il sort des qualifs. Il y a Hugo Gaston qui a fait un gros match contre Maxime. Maxime, il a deux doigts d'avoir des balles de match contre lui et qui a une wildcard et qui a gagné ce matin. Donc des fois, le haut niveau, ça se joue à pas grand-chose. Et on a une bonne génération avec Lucas Vanache, Arthur Fils. Et je pense que ça va arriver dans un ou deux ans. Mais il faut attendre,
Et chez les dames?
Chez les damoiselles, il y a des petites qui ont été naturalisées. Donc il faut attendre un peu plus parce qu'elles sont très très jeunes. Elles ont 14-15 ans. Mais tennis féminin, ça va très très vite. Hein. Des fois, à 16-17 ans, elles sont déjà très fortes. Mais ça va arriver. Faut être optimiste. Ouais,
Alors un mot sur Novak Djokovic. Vous l'avez dit, il a été un peu malmené par un jeune croate de 19 ans. Victoire 3-7-1 hier. Est-ce qu'il peut vraiment être inquiété dans ce tournoi? Et si oui, par qui, Djoko?
Est-ce qu'il peut être inquiété? Oui, il peut être inquiété, mais le problème, c'est que...
Il
a réussi à gagner avec une blessure aux abdos. Le problème, c'est qu'il a déjà eu une alerte là sur ce match-là, et c'est le genre de personne qui ne va pas commettre les mêmes erreurs. Donc il s'est un petit peu relâché. Il a vu que son adversaire était déjà un peu... Il avait déjà mal à la cuisse dès le premier set. Il a gagné facilement, il s'est un petit peu relâché. Il a dit en conférence de presse qu'il était un petit peu malade, mais bon, on le connaît. C'est pas du bluff, c'est juste pour... Mais c'est quelqu'un qui est très à cheval sur tout ce qui se passe. Et là, il a été inquiété. Et c'est rarement une personne qui a inquiété plusieurs fois sur le même tournoi. Donc là, il va arriver au prochain tour avec il va faire très attention à tout ce qui se passe. Et je pense qu'une fois qu'il arrive en huitième et en quart, ça va être très dur de...
C'est un autre tournoi qui commence.
Oui, hein. Une fois qu'il arrive en huitième et en quart, je pense qu'il va plier le tournoi. Mais on ne sait jamais, il peut perdre des plumes. Et de l'autre côté, Alcaraz, on ne sait pas trop où il en est parce qu'il n'a pas fait de tournoi. On a Zverev qui n'a pas trop mal joué, mais qui a semblé un petit peu nerveux à la United Cup.
Qui est aussi présent.
Medvedev qui a perdu le premier set tout à l'heure contre le petit Français, là, Atman. Mais ouais, c'est le genre de personne qui se nourrit un petit peu des petites failles. Et il a vu qu'il a montré une faille aujourd'hui et c'est sûr qu'il ne va pas en montrer d'autres sur la suite du tournoi. Et c'est pour ça que c'est un grand champion. Mais avec la chaleur qu'il fait, on ne sait jamais. Mais s'il joue en night session, ça va, il ne craint rien.
Éric Figuier, sur Djoko, vous ne semblez pas inquiet pour lui?
Alors, d'abord, je suis pas un grand fan de Djoko, mais il faut reconnaître, évidemment, et ce serait difficile de faire le contraire, c'est un immense champion. Et non, alors, il avait un petit peu mal au poignet la semaine dernière, ou il y a 15 jours. La seule question, c'est est-ce que son état de forme lui permettra de donner tout ce qu'il a? Après, il est quasi imbattable. Alors, bien sûr que dans le sport, imbattable, ça n'existe pas. On est bien d'accord. Mais à ce niveau-là, pour ces joueurs-là, pour ces athlètes-là, pour ces immenses champions, il n'est pas du tout sur la fin de carrière, Djoko, même si son âge pourrait le laisser imaginer, mais il est encore en excellente forme. Donc, à part un Alcaraz au meilleur de sa forme, puisqu'on sait que c'est lui, a priori, qui va quand même prendre le relais dans les 2-3 ans qui viennent, il a déjà gagné 2 grands chelems. Mais à part lui, je vois pas qui pourrait le contrarier s'il n'a pas de pépin physique.
Et pour vous, Paul-Antoine ?
Moi, je suis pareil. Hein. Je veux dire, Djoko, c'est un grand champion. Je pense que mentalement, il est extrêmement fort. C'est-à-dire qu'il arrive à concrétiser tout ce qu'il mène. Il arrive à rebondir. Donc aujourd'hui, moi, je vois pas trop de personnes qui peuvent l'inquiéter. Je pense que le seul qui pouvait vraiment l'inquiéter, c'était Nadal. Mais voilà. Donc moi, je pense qu'il va aller au bout des choses et voilà, il est au-dessus du lot, hein, on peut dire ce qu'on veut, hein, je veux dire, il est vraiment au-dessus. C'est-à-dire qu'il est physiquement, mentalement, techniquement, il a quand même un immense talent. Moi, Djoko, il me fait penser un peu à Pete Sampras. Hein. Pete Sampras, je trouve qu'il était extraordinaire à l'époque. C'était quelqu'un qui était au-dessus du lot. Alors, il y avait ce duo avec Agassi, mais quand il fallait sortir quelque chose, il le sortait. Quoi.
Ouais, je pense que son mental ouais. fait une énorme différence. Moi qui suis un fan de Roger Federer, il faut avouer que le mental de Djoko est l'égal de l'Espagnol.
Nadal.
De Nadal, j'ai un trou de mémoire. De Nadal, bon là, malheureusement, il a des problèmes physiques, mais c'est à ce niveau-là qu'ils font vraiment la différence tous les deux, quoi. C'est des extraterrestres, c'est pas possible. Ils sont inhumains.
Donc, ils vont tout chercher.
Donc pour l'instant, il sera encore au-dessus. Alors en finale, après, voilà. S'il a eu des matchs un petit peu plus compliqués avec la chaleur, même s'il joue le soir, ça peut l'entamer un petit peu. Voilà, c'est pas un cyborg non plus, mais ça va être difficile. Mais son mental, c'est vraiment, ouais. c'est extraordinaire.
Moi, je pense que mentalement, il arrive aussi à mettre les autres en difficulté. C'est-à-dire de dire, voilà, il y a 2 semaines, j'ai mal au poignet, là, je pense qu'il crée un doute. Mais est-ce que tout ça, c'est vrai ou pas? Je pense qu'il y a vraiment quelque chose.
On le connaît aussi pour ça. Hein.
Et voilà, il est très fort, et je pense que les autres, ils savent pas sous quel pied jouer avec lui. C'est-à-dire que il sait
masquer son jeu un peu.
C'est plus un ascendant qu'il a aujourd'hui.
Oui.
Hein. C'est là, il met la main sur le cou de ses adversaires, et puis il desserre l'étreinte une fois qu'ils sont dans le vestiaire.
C'est ça.
Nicolas, sur tout ce qui a été dit.
Là, oui, Djoko, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit, mais après. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le tennis féminin, et les cartes sont un peu plus rebattues sur ce tournoi-là.
Il y a plus de suspense. Ouais.
Et il y a Rybakina qui a bien joué, il y a Caroline Garcia qui a bien joué finalement à la United Cup, et il y a Coco Gauff qui a gagné l'US Open l'année dernière. Donc les cartes sont un peu plus rebattues tennis féminin, et moi je suis un petit peu plus intéressé par le tournoi qui va se passer là-bas. Sabalenka qui a l'air très en forme, qui aime bien cette surface-là où elle a le temps d'envoyer toutes ses cartouches. Mais le tournoi féminin va être peut-être un peu plus. Il y aura peut-être un peu plus de surprises, il y aura peut-être un peu plus d'attentes. Mais le tournoi masculin, c'est vrai que Polo, il disait, à part Alcaraz, il y a Dimitrov qui est en forme, Demi-Nord sur 3-7 gagnants, je ne sais pas s'il a le physique pour tenir, mais.
Tsitsipas, qui était finaliste l'an dernier.
Tsitsipas, ouais, il a pas trop bien joué. Il y a Zverev aussi qui a pas trop bien joué à la United Cup. Mais je pense que le tournoi féminin, il y aura un petit peu plus de, sera un petit peu plus intéressant à regarder.
Éric Figuier, sur le tableau féminin, vous suivez également ce.
Je suis, mais j'avoue un peu moins, parce que même si j'aime que les tableaux soient vraiment ouverts et que chacun puisse évidemment tenter sa chance. Après, c'est vrai que là, c'est presque tellement dilué qu'on passe effectivement des garçons avec 2 joueurs largement au-dessus du lot à un tournoi féminin où justement, elles sont, je pense, au moins une dizaine à pouvoir gagner le tournoi. Donc du coup, soit on est un technicien comme Nicolas et tous ceux qui suivent effectivement de très près, et à ce moment-là, on sait exactement et on a des préférences forcément sur telle et telle joueuse. Mais quand on suit ça, comme on suit tous les autres sports, et Dieu sait qu'on ne peut pas être derrière chacun des sports, on a quand même une petite vie quand même professionnelle et familiale aussi. Mais là, du coup, c'est beaucoup plus difficile à suivre quand on n'est pas un initié, un technicien. On aime quand même on a besoin d'avoir quelques références quand même. Et là, c'est un peu plus compliqué. Donc je sèche.
Paul-Antoine, sur le tableau féminin.
Moi, c'est pareil. Hein. En plus, avec le Challenger 100 qui s'est déroulé à Nouméa, c'est vrai qu'on était, j'étais plus intéressé à regarder le tennis chez les hommes et voir un petit peu aussi tous les petits jeunes qui étaient les Français, hein, comme Hugo Gaston, il l'a dit tout à l'heure, Niki. Et puis, moi, j'en parlerai tout à l'heure dans les coups de cœur avec Maxime Chazal. C'est vrai que quand on voit qu'il a accroché justement Hugo Gaston et que là, il se retrouve justement dans le grand tableau à la fin, c'est quand même beau et ça prouve quand même qu'on a des Calédoniens qui sont pleins de talent. Et ça, c'est important aussi.
Alors, Nicolas Ngaudrella, est-ce qu'il y a déjà un favori? On a parlé de Djokovic. Est-ce que vous pensez qu'il va le gagner, ce tournoi du Grand Chelem, ce premier de la saison? Il est encore trop tôt?
C'est encore un petit peu tôt, ouais. Il y a des joueurs qui sont en forme. Il y a Dimitrov qui a fait une grosse démonstration à Brisbane. Après, les deux tournois d'avant, Adélaïde et à Auckland, c'était vraiment... Je crois que personne n'a très bien joué parce qu'ils savaient que c'était juste avant l'Open d'Australie. Donc, ils sont pas trop fatigués à ce tournoi. Ça a été deux grosses surprises. Mais il y a Djoko, Alcaraz, on sait pas où il en est. Et voilà, Zverev, Tsitsipas, Dimitrov, il a l'air en forme, mais est-ce qu'il peut tenir... Le seul problème des tournois au Grand Chelem, c'est qu'il faut tenir 3-7 gagnants. Et en fait, c'est une autre planète. On peut Djoko sur 2-7,
il est prenable,
mais sur 3-7 gagnants, il est très 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 dur à jouer. Et même le petit jeune qui a commencé à y croire, il est mené 2-0, il break, il revient, il mène 3-2 et derrière il prend 8 jeux, quoi. Il prend 6-3, 4-0. Donc après, ça va trop vite, quoi. Et il gère trop bien et c'est une personne qui vit vraiment pour être compétitif, chaque détail de sa vie.
Ouais, pour marquer l'histoire, surtout. Ouais,
détail de sa vie, même tout son staff dit qu'il est des fois à la limite insupportable, mais il vit pour ces moments-là, il a l'expérience, il sait comment gérer, et je pense qu'il est fait pour ça, et tout tourne autour des quatre grands chelems, et je pense qu'il a deux tours d'avance sur les autres.
Et l'objectif pour lui, c'est de le réaliser, ce grand chelem.
Je pense que cette année, que peut-être Nadal, il va être un peu juste à Roland. Et finalement, l'année dernière, il y a Alcaraz qui l'a stoppé sur gazon. Et là, c'était vraiment une surprise. Mais je pense que cette année, c'est un objectif. Et je crois qu'il n'a pas été champion aux Jeux Olympiques aussi. Donc, il a été à un match de faire le Grand Chelem. Et il n'a jamais été champion olympique. Donc là, ça va être une année où il faudra le suivre. Je ne pense pas qu'il fera beaucoup de tournois. Mais cette année, il vise les deux objectifs. Et je pense qu'il va les réaliser.
Champion olympique et vainqueur des quatre tournois du Grand Chelem, on suivra ça. Évidemment, on va marquer une pause dans cette émission. Et puis tout à l'heure, on parlera golf, puisque Paul Barjon faisait sa rentrée ce week-end. On revient dans un instant.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
La suite d'une semaine formidable, on retrouve Morgane Boucher et ses invités.
Et après avoir parlé handball et tennis, on enchaîne dans cette émission avec du golf, puisque Paul Barjon faisait donc sa rentrée ce week-end sur le PGA Tour. C'était à Hawaï. Malheureusement, Eric, ça a été compliqué pour notre Calédonien.
Ouais, c'est un démarrage un peu compliqué qui nous ramène malheureusement aux saisons précédentes et à la saison justement qu'il a joué sur le PGA Tour déjà. Donc, c'est pas encore du tout inquiétant.
Non, évidemment, c'est le premier tournoi.
Voilà, c'est le premier tournoi. Alors, c'est le premier tournoi, mais on le voit à l'image de Mathieu Pavon, c'est important, un premier tournoi, de se placer, de marquer des gros points. Et là, bon, pour le coup, il passe un petit peu à côté. Il n'a pas spécialement bien joué, mais il n'a pas non plus été spécialement non plus en difficulté. Alors, il rate quand même le cut de 6 coups quand même, puisque le cut était à moins 1, il est plus 6 donc, total, donc c'est 7 coups même. Donc ça fait quand même beaucoup, hein, rater le cut d'autant de coups. Bon voilà, il n'y a pas péril dans la demeure, mais on l'espérait un petit peu plus près, on l'espérait tout de suite dedans. Il avait fait une telle fin de saison sur le Korn Ferry Tour qu'on avait... On avait vraiment de quoi espérer un meilleur début de saison que celui-là. Alors bon, je pense que Hawaï, il n'a pas non plus, comme beaucoup d'autres parcours, joué non plus énormément sur ce parcours-là. Voilà, c'est un petit peu décevant. Il n'y a pas, pour l'instant, y a pas matière à s'inquiéter. Mais voilà, ce n'est pas forcément le meilleur démarrage.
Paul-Antoine ?
Moi, pareil, hein, mais après, je suis un peu plus mitigé. Je trouve qu'il a quand même su rebondir un peu, parce que bon, il a... sur le début, hein, sur un tour, hein, il a très mal commencé, il a fait beaucoup de bogey, double, etc. Et puis après, il fait quand même, je crois qu'il met 5-6 birdies d'affilée, même 8,
ouais,
je crois.
Oui, mais c'est un joueur du PGA Tour.
Ouais.
C'est oui, pas c'est Paul sûr. Barjon qui arrive de Gambéa et qui réalise un tour fabuleux, enfin, entre guillemets, avec des capacités qu'il montre. Ouais. Là, on sait qu'il est un joueur ouais. du PGA Tour. Alors, ceci étant dit, quand on voit les classements, on voit ouais. tous les autres joueurs qui n'ont pas passé le cut, il y a beaucoup de grands noms, mmh. et pas seulement des grands noms d'avant, des grands noms encore d'aujourd'hui, des joueurs qui ont été performants en 2023. Mmh. Donc, c'est pas non plus... voilà, il a le niveau. Voilà, maintenant faut pas tarder. Donc, ouais. Voilà, ça c'est
mais
une
bon,
certitude.
C'est vrai que le PGA c'est quand même c'est la première division, c'est le top du top. Il y a rien qui est mieux. Maintenant, je pense que ça peut lui donner aussi là pour l'American Express peut-être là où il a pêché parce que bon sur le Corn Ferry. En plus, l'American Express, je crois qu'il a failli le gagner il y a quelques
oui,
années.
Il était en tête
au troisième tour. Ouais. Donc il le connaît bien. Et peut-être que justement, là, il arrive avec beaucoup de pression, parce qu'il le voulait, hein, il voulait remonter en PGA. Donc, peut-être qu'il s'est mis beaucoup de pression. Et puis, qu'au fil du tournoi, bon, bah, il le montre hein, en plus. Hein, mm-hmm. Il commence mal le début. Au beau choix qu'à partir à 6 coups, déjà, il est quasiment out. Il fait des bogeys, double, tout ça, il sait que c'est fini. Pourtant, il continue. Pourtant, il y va, il mm-hmm. fait des birdies, il s'accroche. Je pense qu'il...
Moi, je suis optimiste. Hein.
Voilà, je suis hyper optimiste. Hein. Je pense qu'il l'a voulu. En plus, je crois que Mathieu Pavon, ils ont été coéquipiers en équipe de France amateur, un truc comme ça. Mmh. Je crois que ça a été donc ils se connaissent bien. Bon, je pense peut-être qu'ils vont je sais pas. Alors, je sais pas s'ils sont voilà. Peut-être qu'ils vont débriefer. Ils vont voir. Lui, il termine 7e, donc c'est quand même une belle performance aussi pour un Français. C'est même génial. Hein,
très très belle performance. Hein, des débuts ouais. fantastiques quand on obtient sa carte comme ça sur ce circuit. Ouais. Donc ça, c'est vraiment très bien. Paul a tout ce qu'il faut pour voilà. Les joueurs qui réussissent à se qualifier et à obtenir leur carte pour le PGA Tour, ce sont voilà, ils ont tous. C'est exagéré de dire ça, mais ils ont tous le niveau et ils ont tous le même niveau. À part les 20 ou 30 meilleurs mondiaux qui sont quand même un petit peu au-dessus du lot. Mais après, ils sont en capacité tous de gagner le tournoi, de se placer, de faire une belle saison. Là, il avait une saison pour apprendre. Ça a été compliqué. Il est redescendu. Il a fait ce qui, finalement, était le plus difficile pour moi. C'était de se requalifier avec des hauts et des bas, et puis de se qualifier de la meilleure des manières. Donc là, je pense qu'il a aussi beaucoup appris de toutes ces épreuves-là. Donc non, ça va le faire. Et puis, effectivement, Mathieu Pavon, une première éblouissante. Alors bon, il ne gagne pas, il finit à 3 coups. Hein. 3 coups, c'est rien. Il a été au niveau les 4 tours. Il a été présent, il a été devant. Ça pouvait mieux se passer encore aujourd'hui. Il aurait peut-être pu accrocher, si ce n'est un play-off, en tous les cas, quelque chose d'approchant. Là, c'est très, très prometteur.
Nicolas Ngaudrella sur le golf, vous suivez également les performances de Paul Barjon ?
Moi, j'avoue que par rapport à mes collègues, je suis beaucoup moins expert, mais ce matin, j'ai regardé un petit peu, après avoir regardé le football, le handball et tout.
Il y avait pas mal de choses.
J'ai regardé après le golf et je suis vraiment admiratif. C'est vraiment un sport. Quand tu fais une erreur, il faut faire un coup exceptionnel pour rattraper cette erreur. Alors qu'au tennis, tu peux espérer que ton adversaire arrose un petit peu et. C'est vraiment une planète, c'est mentalement, on parlait de Djokovic, mais je pense que les golfeurs, ils sont 100 fois plus forts mentalement que, c'est vraiment un sport que j'admire et que je regarde, mais c'est vrai que j'y connais un peu moins, mais je suis vraiment admiratif de ce sport, c'est vraiment magique, quoi.
On a pu voir sur les deux tournois d'ailleurs de ce week-end, ça rejoint ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a eu des finishes extraordinaires avec des joueurs qui sont, Rory McIlroy qui est numéro 2 mondial et qui est très certainement, le meilleur joueur du monde, même s'il n'est que numéro 2 mondial, mais on sait tout le talent qu'il a, et pour autant, il craque à des moments où on l'attend pas. On n'attend pas les meilleurs joueurs, mais encore moins lui, et pourtant, c'est difficile. Alors, il craque une première fois, il prend 3 putts à 80 cm, et puis finalement, il se reprend. Ça, c'était donc à Dubaï, hein, c'était pas aux États-Unis. Il se reprend, et puis finalement, il reprend la tête pour faire un coup qu'il ne refera sans doute pas avant de nombreux mois, et puis il met sa balle dans l'eau, et du coup il perd le tournoi là-dessus. Donc voilà, c'est tellement difficile de rester, alors de gagner un tournoi certes, mais d'en gagner plusieurs, d'être toujours devant, et puis là on voit bien l'Américain Grayson Murray qui gagne à Hawaï. Bah, a priori, il peut pas gagner. Et puis, c'est
la surprise.
C'est difficile pour tout le monde. Et puis, lui, il croit aussi. Il rentre un putt exceptionnel. Et alors, on va pas limiter sa victoire à ce putt qu'il rentre. Mais franchement, c'est le golf. Évidemment que le haut niveau dans toutes les autres disciplines amène et demande des qualités particulières. On est bien d'accord. Mais le golf pour gagner un tournoi, c'est juste improbable, quoi. C'est un miracle. Ça tient du miracle à chaque fois, quoi. Et il y a des joueurs et des joueuses qui arrivent à répéter ces miracles. Alors du coup, c'est plus des miracles, mais on se rend bien compte que même à leur niveau, ils arrivent encore à se prendre les pieds dans le tapis.
Et je reviens sur Paul Barjon. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse pour rester sur le PGA Tour cette année? Ça passe par des victoires, ça passe par des...
Alors des victoires, non. Alors évidemment que s'il arrivait à gagner un tournoi du PGA Tour, pour le coup, l'affaire serait faite. C'est une palissade. Hein, il aurait une exemption pour 2 ans. Et puis avec tout ce qui va avec l'accès aux plus gros tournois, parce que ces circuits sont ainsi faits que pour marquer des gros points au classement mondial, bah, il faut... Certes, évidemment, bien joué, mais le fait de bien jouer va leur permettre d'accéder aux plus gros tournois qui vont leur permettre de marquer plus de points. C'est un cercle et vertueux et vicieux. Donc, non, faut déjà passer les cuts. C'est là aussi une lapalissade.
Hein.
Faut déjà passer les cuts pour pouvoir se mettre en position d'obtenir un bon classement à la fin du week-end.
Passer le cut, ça veut dire être dans les...
Voilà, donc un tournoi professionnel, c'est sur 4 tours. Ils sont approximativement 150 joueurs, entre 140 et 150 sur la ligne de départ. Et puis, on en gardera la moitié ou un petit peu plus que la moitié après 2 tours. Donc, faut déjà se qualifier pour le week-end, ce qui est déjà pas simple. Et puis, une fois qu'on est qualifié pour le week-end, donc ce qu'il faut, c'est qu'il faut qu'il continue à travailler, tout simplement. Mais il attend pas après moi pour le savoir, bien évidemment. Mais il faut qu'il bosse encore. Il a pris, je pense qu'il est beaucoup plus mature aujourd'hui. Il a le jeu, si ce n'est pour être, évidemment, il n'a pas encore le niveau pour être dans les 50 meilleurs mondiaux. Mais en tous les cas, il a le niveau, la preuve en est, pour être sur le plus grand circuit du monde, là où les meilleurs se trouvent. Donc voilà, qu'il continue à travailler. Voilà, et qui croit en lui, bien évidemment, parce que c'est aussi ça, c'est aussi ce qui fait la différence. Voilà, et puis on voit bien que beaucoup de joueurs qui gagnent, l'Américain qui a gagné aujourd'hui à Hawaï, il le disait dans sa petite conférence d'après tournoi, il y a quelque temps encore, il voulait arrêter le golf parce que c'était trop difficile, parce que c'est un sport qui est tellement exigeant, qui est tellement frustrant. Alors pour nous, les modestes amateurs, bien évidemment, mais pour ces professionnels qui sont tellement bons et qui ont tellement travaillé pour ça, et combien d'histoires de golfeurs ont voulu arrêter, ont voulu passer à autre chose. Et puis, c'est un mot qu'on emploie beaucoup aujourd'hui, ils sont résilients. Et puis, ils s'accrochent et ils se battent. Et puis le travail finit par payer. Pas pour tous, parce que sinon, il n'y aurait que des vainqueurs. Hein, il y aurait 300 professionnels sur le tour. Il n'y en a que 150, enfin un petit peu plus. Donc, il faut qu'il continue à bosser, il faut qu'il ait confiance en lui. Et puis, ça va payer.
On suivra évidemment la saison de Paul Barjon. Toute cette année.
Paul Barjon, le golfeur de Dimbéa.
Exactement.
Hein, on oublie de le dire trop souvent. Non, il a encore une licence au club de Dimbéa, Nouvelle-Calédonie.
On le répète sur Radio Rythme Bleu, pas d'inquiétude, Eric. On va terminer cette émission avec un petit débat, une question pour poursuivre. Alors, on vous laisse se poser la question, justement. Le Dakar est-il toujours une épreuve prestigieuse? Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs Paul-Antoine Grandjean, sur ce Dakar? Est-ce que ça vous intéresse d'abord, ce sport?
Moi, j'avoue que je regardais beaucoup plus jeune. Et ça fait un
le Paris Dakar.
Le Paris Dakar. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même pourtant, on a quand même Sébastien Loeb, on a quand même des grands champions, hein, Carlos Sainz et tout ça. Je sais pas.
Pas autant d'engouement.
Non, pas autant d'engouement qu'avant. Pourtant, j'ai regardé là, justement quelques articles ce matin, hier, et c'est qu'il y a de la stratégie, ça a l'air d'être sympa. Faudrait que je m'y replonge, mais aujourd'hui, j'avoue que j'ai fait l'impasse.
Éric Figuère.
Non, moi je rejoins Polo pour le coup. Moi je certes, il faut vivre avec son temps. Il faut évidemment aller de l'avant, bien évidemment, mais à moins qu'il change de nom, alors ça changerait pas tout, mais le Paris-Dakar, enfin le Dakar.
Le Dakar, c'est une marque maintenant.
Et, oui, mais c'est une marque, mais ça veut plus dire grand-chose. Pour moi, le Paris-Dakar, c'est bien autre chose que ça. Et c'est bien dommage que ça ait changé. comme disait Polo, il y a encore de très grands pilotes, de très grands champions. Il se passe beaucoup de choses. On sait que sur un Dakar, il peut se passer beaucoup de choses. Mais il faut reconnaître que, encore une fois, à part les initiés, ça m'intéresse beaucoup moins. Alors, je regarde les résultats tous les jours, bien sûr. Je regarde les résultats finaux. On s'y intéresse, évidemment, mais on n'en rêve pas comme on en rêvait. Alors, est-ce que c'est nous qui avons vieilli? Alors, vous êtes encore assez jeune, mais...
Est-ce que c'est
parce qu'on a vieilli? Moi, j'ai vu le Paris-Dakar à l'époque au Sénégal, j'étais militaire, et j'étais là quand Auriol s'est cassé, est tombé et s'est blessé gravement en moto. Donc c'était véritablement autre chose. Alors il ne faut pas vivre dans le passé, on est bien d'accord. Mais voilà, ça fait un peu moins rêver aujourd'hui.
Et pour vous, Nicolas ?
Bon, je suis dans la même lignée. C'est vrai que avant le Paris-Dakar, c'était une course magique. Après, ça est parti en Amérique du Sud. Là, je crois que maintenant, c'est en Arabie Saoudite.
En Arabie Saoudite, exactement. Ouais.
Et avant, je ratais aucun... Il y avait des grands reportages chaque jour. Et je regardais, il y avait au moins une demi-heure où ils expliquaient toute chaque course. Et c'est vrai que maintenant, ouais, j'écoute juste les résultats. On entend Sébastien Loeb, des noms, Peter Hansel, des noms connus. Mais c'est vrai que si je ne reconnais pas ces noms que j'ai l'habitude d'entendre, ça m'intéresserait beaucoup moins. Je ne sais pas ce qu'il faut pour relancer le truc, mais... C'est vrai que moi, j'aimais bien regarder les chaque jour. Je savais que sur une chaîne en France, je regardais toujours à l'heure à 18h. Je regardais le résumé du Dakar. Je ratais jamais, mais c'est vrai que non, j'ai perdu le fil. Mais je sais pas quoi faire pour relancer le truc. Mais
c'est vrai qu'au-delà du nom. Les lieux sur lesquels ça se passait, l'Afrique était quand même un terrain de jeu extraordinaire. Ouais. Alors bien sûr que les dunes, le désert, bien sûr que c'est quelque chose. On a été très surpris de voir qu'en Amérique du Sud, il pouvait y avoir des étapes et des déserts et des paysages absolument fabuleux. Mais l'Afrique, c'est bien autre chose. Ouais. Et c'est le Paris-Dakar, il est né en Afrique. Et en Afrique, bah, effectivement, on suivait les étapes d'une autre manière aussi parce que les pays qui étaient traversés était tout à fait différent. Donc peut-être que ça aussi, ça a enlevé un petit peu du charme à cette épreuve.
Ça évoquait plus de choses, peut-être, avant ?
Moi, je pense que ça évoquait plus de choses, et aussi au niveau de la communication, aujourd'hui, elle est totalement différente, hein. Comme l'a dit Niki, on n'entend plus autant parler, c'est plus aussi fantastique que ça l'était à l'époque. Avant, on voyait des sauvetages,
c'est
on voyait
presque
des...
plus une aventure.
C'est ça.
C'était tellement
c'est ça.
Une aventure avant.
C'est ça. C'est un peu comme le Tour du Monde à la voile, hein. Je veux dire, ça reste extraordinaire, hein. On pourrait parler des ultimes en ce moment, c'est une nouvelle course, c'est génial. Aujourd'hui, le Paris-Dakar, je pense qu'il a perdu ça, malgré pourtant des grands noms, hein, des grands noms du rallye qui sont, et je pense, qui sont sur le Dakar aujourd'hui, parce que pour relancer sans doute le Dakar, et pourtant, moi en tout cas, je n'ai pas trouvé encore les petites intercelles pour aller...
Les marques ont été un peu diluées aussi, c'est un peu...
Ouais.
Voilà, ça enlève un petit peu de l'intérêt aussi, je trouve.
De son charme.
On sait pas. Moi, je regarde et des fois, je sais pas sur quel véhicule ils roulent tous ces champions-là.
Donc, le nom des équipes, on est un peu perdu.
Ouais, c'est un petit peu déstabilisant.
Eh bien, en tout cas, il n'y a pas vraiment de débat. Alors, finalement, le Dakar n'est plus aussi prestigieux, selon vous. Allez, on va terminer avec vos coups de cœur sportifs. Je commence avec vous, Paul-Antoine Grandjean. Vous en avez un peu parlé tout à l'heure.
Oui. Alors, moi, j'ai un petit coup de cœur pour Maxime Chazal. Moi, j'ai eu la chance de partager un petit week-end avec lui et je trouve que c'est un garçon hyper simple. Très dynamique et quand je vois ce qu'il a fait justement contre Hugo Gaston, je me dis qu'il lui manque un tout petit étincelle et c'est vrai que je pense que ça peut être un grand champion. Je pense que j'espère que ça va le relancer là justement un petit peu et qu'il va gagner des tournois. Et je pense en tout cas qu'on peut être fier d'avoir un Calédonien à ce niveau-là, parce que bon, ben, c'est qu'on a Niki, mais Niki se fait un peu plus vieux. Et c'est cool voilà, c'est d'avoir un nouveau qui prend la relève. On en a pas mal hein, qui arrivent, hein, puisqu'on a le jeune Courte aussi qui a fait des Jeux du Pacifique extraordinaires. Mais et Maxime, il peut aller plus loin et je pense qu'il a le potentiel en tout cas pour le faire. Donc voilà.
Éric Figuier, votre coup de cœur.
Moi, mon coup de cœur, les Jeux sont terminés. C'était au mois de novembre, mais j'ai encore envie d'en parler encore un petit peu. Et moi, j'ai un vrai coup de cœur pour mes coachs, pour les coachs de la sélection de golf qui ont tellement œuvré. Alors, je vais les citer quand même, Julien Fauré et Émilie Picot. Et c'est vrai qu'on parle toujours des athlètes parce que c'est eux qui sont sur le devant et c'est eux qui performent et qui gagnent et qui nous font rêver. Mais ces athlètes-là, sans leur coach, ne seraient, je pense, pas grand-chose. Et là, en l'occurrence, pendant ces Jeux, les deux coachs que j'ai cités ont été exceptionnels. Donc un grand coup de cœur pour ces deux personnes qui, au-delà d'être des vrais professionnels, des vrais techniciens, de bons techniciens, sont aussi des personnes extraordinaires. Et ça, c'est beau. Et puis juste un petit clin d'œil pour Ariane Klotz, qui va entamer sa carrière professionnelle en Europe. Voilà, elle n'est pas encore tout à fait sur la première division européenne et elle a évidemment encore beaucoup de chemin à faire. Mais ça y est, ça se lance. Elle est en vacances sur le territoire. Elle ne va pas tarder à repartir. Donc moi, je lui souhaite bonne chance parce que c'est une très, très, très belle joueuse, très grande joueuse et je pense qu'elle a beaucoup d'avenir.
On suivra ça, évidemment. On termine avec vous, Nicolas.
Moi, je vais rejoindre un peu Paul Antoine, mais je vais élargir un peu plus le truc parce que moi, c'est un peu plus dans le tennis et c'était pour faire un coup de cœur pour nos jeunes tennismans. C'est vrai qu'il y a Maxime qui a fait une super belle performance, qui est à 2 points de gagner un match contre Hugo Gaston. Il y a Eremana qui a gagné les Jeux du Pacifique. Il y a le petit Maël Gérinier qui a réussi à se qualifier pour le tournoi des petits as, pour se qualifier pour la pré-qualif. Donc c'est la dernière fois que quelqu'un s'était qualifié, c'était Sébastien Pidra il y a une vingtaine d'années. Et il y a Caroline en ce moment qui est revenue sur le territoire, qui s'entraîne. Donc dans le tennis, quand même, on a quand même des bons petits jeunes. On a une bonne génération, donc il faudra les suivre. Et c'est un coup de cœur pour eux. Il y a un deuxième petit coup de cœur, c'est ma deuxième passion, c'est le futsal. Et j'ai cru voir que cette année, il y aura la O-League qui va se passer ici en Nouvelle-Calédonie. Donc un petit coup de cœur pour l'équipe de la SPTT qui a fini championne l'année dernière. Et j'espère qu'ils vont bien se préparer. Qui est pour bien nous représenter, essayer d'aller gagner cette Ligue des champions du futsal ici, qui va se passer ici. Donc courage à l'SPTT, et faites attention à nous, on arrive le FC Ferrand pour vous donner du fil à retordre, mais on va essayer de les faire monter au maximum. Et Maxime, prépare-toi, parce que demain on a un match de padel, donc il faut que tu sois chaud demain.
Les messages sont passés, merci à tous les trois d'avoir été avec nous. C'est ainsi que s'achève cette émission. On se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle semaine sportive. Dans un instant, le
pour
journal.
Pour vivre le meilleur du sport, les plus grands matchs, les exclusivités, c'est seulement avec les offres Canal+. Canal+, le partenaire d'une semaine sportive sur Radio Rythme Bleu.